Bon dia de nou, gràcies de nou per continuar amb nosaltres amb aquesta jornada. I ara donem pas al professor Maki Solomos, d'origen grec, però que és professor a la Universitat de París 8 i que és musicòleg, és a dir, que les seves investigacions venen des de l'àmbit de la música particularment contemporània. Ell és un gran especialista en Yanis-Xenakis, però més endavant s'ha treballat a partir de qüestions com la tecnologia, no? Que havíem parlat també de Roberto Barbanti, i forma part també del grup que juntament amb nosaltres ha organitzat i pensat també aquesta jornada. I ha estat també cofundador d'una revista important dintre de l'àmbit també de la musicologia, però amb molta apertura, que és Filigran, i que és una revista que ara té tots els números penjats a internet i que per tant podeu allà trobar moltíssim material, sigui en francès com també en anglès, perquè també hi ha molts articles en anglès. I el seu últim llibre és un treball sobre l'anàlisi del so, particularment de com s'ha passat de la música, de la concepció de la música del so, un treball sobre el so dintre de l'àmbit de la música contemporània. I ja us deixo amb ell per no agafar-li més temps. Moltes gràcies. Jo he de dir, li anem per ser, perquè no m'ho he deixat.
Merci Carmen, merci beaucoup pour cette invitation, merci d'avoir organisé ce colloque à Carmen Lampato et merci. C'est beau comme ça? Plus proche. Comme ça. Et merci à José Manuel Belén pour la technologie. Nous ne sommes pas en décroissance, nous avons deux ordinateurs. Le mien est un peu vieux, il ne marche pas très bien la projection. C'est pour ça que je me suis permis de demander d'utiliser. Voilà, et puis il y a la Joconde, voilà. La décroissance. quelques suggestions sur l'idée de décroissance en musique. Décroissance. Voilà une idée relativement nouvelle. Ce matin, nous avons eu un résumé de certaines idées importantes. Un courant de pensée encore minoritaire, je crois, très minoritaire, qui rencontre beaucoup de résistance. Moi-même, je ne suis pas totalement à l'idée de décroissance, j'avoue. Bien que faisant partie du groupe de travail mentionné quand même, sur cette question, ce qui m'intéresse beaucoup dans l'idée de décroissance, c'est la critique du productivisme, de ce système économique qui tourne sur lui-même, qui exclut de plus en plus l'humain, qui détruit la nature, l'humanité. Voilà, ça je crois qu'il y a beaucoup à apprendre du côté de la décroissance. Par contre, je suis un peu embarrassé par un certain rigorisme moral qu'il y a chez les gens de la décroissance, qui parle par exemple de sobriété, et parfois il y a une certaine nostalgie du passé, que l'on rencontre aussi beaucoup, pour les musicologues, on connaît chez Murray Schaeffer, et chez les gens de l'acoustique écologique, qui parlent contre la pollution sonore, il y a une grande part de nostalgie sonore, il y a d'ailleurs un grand... ils sont fortement combattus par les gens qui aiment le bruit, mais le bruit désiré, et pas le bruit comme le fait. Donc je suis un peu embarrassé, mais je pense que c'est intéressant de travailler sur la décroissance, notamment sur son premier aspect, pour voir jusqu'où on peut aller. Dans le domaine de l'art, le thème est assez récent, on voit qu'on n'a pas beaucoup, ça fait pas beaucoup d'années que les gens de l'art parlent de décroissance. Et quant à la musique, qui sera l'objet de ma communication, je crois que c'est vraiment une idée. Je crois que nous sommes les premiers à parler de décroissance en musique, grâce à Carmen, Et j'ai pas rencontré de travaux, il existe peut-être des gens qui en parlent, mais il n'y a pas encore de publication systématique autour de ce thème. Comme je vous le disais, l'idée de décroissance ne m'a pas totalement convaincu, c'est pour ça que vous verrez que dans ma présentation, ceux qui seront parfois des doutes, et puis surtout, je me contente entre guillemets de quelques idées, de quelques suggestions dans mon temps. En fait, je vais vous parler de trois idées, ce sera trois suggestions. Les deux premières sont organisées autour de la dialectique bien connue de l'art, entre l'art et ses conditions d'une part, l'art dans la société, les possibilités de l'art, qui souvent le transforment complètement. Et la deuxième, c'est la question interne à l'art, donc la question de la technique et de la technologie, du faire, des moyens. Et puis, il y a une troisième question qui m'intéresse particulièrement et qui intéressera les gens de l'écologie, que je traiterai si j'ai le temps. La question sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, de l'hypertrophie du son. Et voir si on peut parler aussi de décroissance dans ce domaine. Premier effet, la place de la musique dans la société. Je crois que c'est ici où les penseurs de la décroissance ont le plus à nous apprendre. C'est évident, c'était aussi le propos initial de la communication de Roberto Barbati. Donc, pour aller vite, puisqu'on connaît ces choses, je me contente de citer par exemple le petit livre de Serge Latouche et Didier Arpagès, Le temps de la décroissance. Le capitalisme est condamné à croître, puis à auto-entretenir cette croissance. Avec 2% de taux de croissance annuel, minimum considéré comme nécessaire par tous les responsables, en 2000 ans, le PIB serait multiplié par 160 millions de milliards. Le temps de l'effondrement se rapprochant dangereusement, celui de la décroissance est donc venu. La société de sobriété choisie, qui émergera dans son sillage, supposera un autre rapport au temps. Ne plus rester prisonnier de la seule conception linéaire du temps qui a dominé en Occident depuis au moins la Renaissance. Restaurer un rapport sain, entre guillemets, au temps, c'est tout simplement réapprendre à habiter le monde. Et donc, c'est se libérer de l'addiction au travail pour retrouver la lenteur, redécouvrir les saveurs de la vie liées au terroir, à la proximité et au prochain. Il s'agit moins, dans tout cela, d'un retour à un passé mythique perdu que de l'invention d'une tradition rénovée. Vous comprenez que j'ai choisi exprès les citations pour montrer en quoi il y a quand même une certaine nostalgie. Donc pour aller vite, avec la décroissance comme critique du productivisme, il s'agit, comme le dit quand même le texte introductif, de sortir de la logique de l'homo economicus, centrée sur l'économie au sens que l'entend le capitalisme. Dans cette société qui est la nôtre, l'art n'a que deux places possibles. L'une, c'est ce qu'on appelle l'art commercial, pur divertissement, entertainment, pur produit économique. Et de l'autre côté, il y a l'art, il y a dans la musique ce qu'on appelle les musiques savantes, la musique savante, la musique d'avant-garde, qui elle est une sorte de luxe, on pourrait dire, produit de luxe. Ce qui est encore plus évident, bien sûr, dans le marché de l'art, comme on dit Roberto. Dans les deux cas, l'un des problèmes énormes qu'ont les musiciens, c'est que l'art n'a absolument aucune nécessité, aucune importance. Soit c'est un pur produit de la croissance économique, dans les musiques commerciales, soit c'est un, on va dire, un résidu de la bonne société en ce qui concerne les musiques savantes. On le voit au fait que ces musiques ont un public soit de spécialisés, soit de résidus de ce qu'était la bourgeoisie éclairée, de gens qui vont à des concerts de musique contemporaine sans comprendre autre chose, juste parce qu'il faut le faire. Donc, voilà un art qui a perdu son lien avec la société, qui soit contenu dans une marge, la marge du luxe, soit devenu un produit comme un autre. Dans une société de décroissance, c'est-à-dire une société non capitaliste finalement, anti-productiviste, l'art, et c'est là où ça. Question bien intéressante. personne pourrait intégrer la vie quotidienne. Quand on le voit, pour citer Roberto, on irait vers l'art dans le monde. On pourrait imaginer une inscription de l'art dans le quotidien, dans le travail quotidien. On pourrait imaginer ce qui se fait pas mal, notamment dans un pays comme la France où il y a des subventions pour cela. On pourrait imaginer un art dans le monde, en France on appelle ça associatif entre guillemets. On parle parfois d'art social, mais l'art associatif aussi. On pourrait imaginer un art dans les quartiers dits défavorisés, pas simplement autour de la musique rap, ça pourrait aussi être de la musique ambiante, c'est important. On pourrait imaginer aussi un art lié à la pédagogie, voilà quelque chose qu'on a complètement perdu. Il y a un mépris de la pédagogie, surtout plus en France que je pense en Espagne. La pédagogie, on la laisse, c'est quoi les enfants, hein, pour apprendre à l'école maternelle. Voilà. D'une manière plus générale, on pourrait imaginer que l'art rejoigne, regagne la vie et par là se revitalise, retrouve son importance et qui permet de quitter le système économique capitaliste ou la marge luxueuse dont on parle. Voilà une première possibilité, je pense, très riche. Je cite une dernière fois Latouche et Pagès qui évoque cette possibilité en filigrane de leur propos, pour émettre une certaine critique, comme vous l'aurez compris. La sortie du système productiviste et travailliste, c'est-à-dire centré sur le travail, sur toute autre organisation où le loisir et le jeu sont valorisés à côté du travail, où les relations sociales priment la production et la consommation d'inutiles produits jetables, voire nuisibles. Redécouvrir la qualité hors des logiques marchandes ferait décroître les valeurs économiques. La redécouverte de l'œuvre, cette activité créative de l'artisan et du paysan non soumis à la pression d'une concurrence exacerbée, constituerait un bon antidote à l'émiettement des tâches. L'autoproduction présente pourtant un moyen de réduire les coûts écologiques du transport, de diminuer les emballages et de faciliter le recyclage. Voilà une possibilité tout à fait intéressante. Mais la difficulté la suivante, c'est que le modèle de l'œuvre qui est proposé ici, on voit, c'est le modèle de l'artisan et du paysan. Or justement, toute l'histoire de l'art occidental a été une lutte pour quitter ce modèle, pour s'affranchir de l'artisanat, pour que les artistes puissent devenir modernes avant d'être récupérés pour le commerce. Donc là, je rencontre une difficulté avec l'idée de la décroissance, qui est le système productiviste, tout à fait. Mais si c'est pour que l'art se dilue dans l'artisanat quotidien, il perdrait la force intérieure, etc., etc., qu'il a conquis globalement autour du monde pour aller vite. Et la question qui se pose, bien sûr, qu'on pourrait adresser aux artistes, est-ce que vous êtes prêts à cela? Parce que le modèle que nous propose Arpagès et Latouche, ça serait finalement la disparition de l'artiste, puisqu'il parle d'autoproduction. Ça serait un peu un retour, entre guillemets, à des sociétés premières primitives, où il n'y a pas d'artiste, où tout le monde fait un peu de musique, un peu de danse, un peu de peinture. Un modèle formidable. Voilà, mais c'est une disparition de l'art. Voilà, je m'arrête là pour la première question. J'espère avoir exprimé la question suffisamment, de manière suffisamment dialectique pour qu'on puisse en débattre. Deuxième question.
La question du moyen.
C'est un second domaine où clairement on peut parler de décroissance en art et en musique. Alors je ne sais pas si on peut le faire d'une manière générale. Est-ce qu'on peut dire qu'un art qui utilise peu de moyens est un art de la décroissance? Et inversement, qu'un art qui utilise beaucoup de moyens, par exemple, serait un art de la croissance? Je ne suis pas convaincu de cette corrélation, voire même, je pense que ça ne marche pas. Par exemple, un des rares antécédents possibles en matière de décroissance, je pense que ça évoquera peut-être, c'est la musique minimaliste américaine des années 60. Voilà. Mais musique minimaliste, musique de la décroissance au niveau des moyens, mais par contre, c'est une musique des années 60 en pleine explosion du capitalisme productiviste et de la croissance. C'est une musique de la jouissance. Pour moi, c'est une musique qui refuse plutôt la complexité de l'art sériel européen. C'est une musique de ce qui vont devenir les bonbons, comme on dit, c'est-à-dire des gens qui veulent jouir de l'art assez vite, tout en ayant Coca-Cola et beaucoup d'argent. J'adore la musique minimaliste. Mais voilà, c'est pas de l'art de la décroissance au sens dont on parle aujourd'hui. Je crois qu'il ne faut pas confondre les deux. C'est pas parce qu'on utilise peu de moyens qu'on est dans la décroissance. Par contre, là où il y a une corrélation peut-être au niveau des moyens, parce que c'est sûr que ça concerne la décroissance, concerne la question des moyens, c'est au niveau de ce qu'on appelle plus la technologie. Alors nous avons dans l'art et notamment dans la musique un découplage entre technique et technologie. Technique et technologie pendant longtemps étaient allées ensemble, étaient associées, étroitement associées, et c'est vrai que dans le système productiviste capitaliste, ce sont deux choses qui se sont découplées de manière assez évidente. Par exemple, dans les musiques commerciales, la technologie s'est totalement affranchie. Donc j'entends par technologie, ce qui domine actuellement, c'est les technologies de diffusion. Tous les formats MP3, etc. et les moyens de stocker la musique. Voilà. Et ces technologies s'est totalement affranchie de la musique elle-même. Et on voit que dans la situation actuelle, de manière très... je ne suis pas sociologue, mais ça saute aux yeux, c'est évident, la musique est en train de disparaître. En tout cas, dans les musiques très commerciales, la musique est donnée gratuitement pour vendre les divers téléphones portables. Hein, c'est vraiment intéressant ce qui se passe. C'est la technologie qu'on fait avancer grâce à la musique. La musique n'est plus qu'une vitrine pour vendre des téléphones portables. Voilà, donc là, effectivement, il y a une croissance. La technologie génère la croissance au sens productiviste. Dans les musiques d'avant-garde et savantes, la question est un peu plus complexe, mais finalement pas tellement éloignée. Qu'est-ce qu'on y rencontre? Eh bien, on y rencontre depuis les années 50 globalement un extraordinaire déploiement de la technologie qui, là aussi, s'affranchit de plus en plus parfois de questions musicales. Je ne vais pas en faire une histoire, on pourrait commenter au début de la musique électroacoustique, mais il est évident qu'on a un point d'aboutissement de nos jours dans des... Par exemple, on pourrait faire une critique acerbe de l'IRCA, de ce point de vue, où l'on voit travailler beaucoup de musiciens qui ne sont pas intéressés véritablement aux technologies, qui viennent souvent de la musique instrumentale. Et qui passe par l'IRCAM pour s'auto-légitimer, et que l'IRCAM utilise comme vitrine aussi, et qui donc sont dans une situation où on les oblige à utiliser de la technologie dont ils ne veulent pas véritablement. Voilà, les meilleurs compositeurs de musique dite électroacoustique qui connaissent la technologie, vous les rencontrerez souvent pas à l'IRCAM. Et vous rencontrerez des gens comme Brian Blackmore, brillant compositeur, mais qui, la première fois qu'il a fait de la musique électroacoustique, c'est à l'IRCAM. Donc, où il était dans une situation tout de suite de production d'œuvre. Il est évident que là, il va dépendre du technicien et finalement, son œuvre va vendre la technologie IRCAM. Donc, c'est un peu ça pour aller un peu vite. D'où les grands problèmes que nous avons aujourd'hui dans la musique électroacoustique mixte, où on rencontre des situations totalement irréalistes, des œuvres extrêmement, avec une technologie très compliquée, qu'il faut passer des heures et des heures pour que ça marche, qu'au final, ça ne marche pas. Et puis, surtout qu'ils ne sont pas transportables. C'est-à-dire qu'on les fait une fois avec la technologie de 2014 à l'IRCAM, mais demain, on ne pourra pas les refaire. Il faut tout recommencer à zéro. Donc, c'est quand même des situations de gaspillage, il faut dire très clair, de croissance. L'exemple le plus fort, et c'est au moins les dernières techniques de spatialisation du son, par exemple la Wakefield Synthesis, technique de spatialisation du son puissante, mais qui nécessite des moyens extraordinaires. Donc, en Europe, je ne crois pas qu'il y ait plus de 3 salles dotées de Wakefield Synthesis en Europe. Actuellement, il y en a une à Berlin, à la Technische Universität, il y en a une à la ZKM à Cologne, et il y en a une à l'IRCAM. Donc, voilà, on revient. faut critiquer, bien sûr. C'est pourquoi un certain nombre d'artistes militent aujourd'hui dans la musique électroacoustique pour une sorte de décroissance technologique, pour un lo-fi technologique, assez clairement. Je crois qu'il y a un courant très important de musiciens qui vont dans ce sens. L'exemple que j'ai pris, c'est le compositeur italien Agostino Di Cipri, de qui je parle particulièrement pour moi, parce que c'est pour moi il fait avancer beaucoup de causes en musique. Je vais vous en parler très brièvement aujourd'hui, non pas pour sa musique à lui, mais pour un travail relativement peu connu qui intéressera quand même un travail qu'il a fait sur John Cage. Je vais vous faire écouter en disant préalable la petite notice technique. Le travail qu'il a fait avec un pianiste italien, un ami à lui, Ciro Lombardi, je crois, autour de pièces très peu connues de John Cage, Music for Electronic Piano. Ce sont des petites pièces où il n'y a pas grand-chose. Ils ont inventé pas mal, entre guillemets, pour le faire. Donc, je vous lis la notice. Je lis en anglais directement, comme ça. The sound transformations implemented as digital signal processing algorithms on the program called KIMA, Pacanara Workstation. The sound transformations are fed by four piezoelectric discs set in direct contact with wooden and metal surfaces of the piano. Due to this very cheap and low quality analog transducers instead of professional microphones, here the piano sound often takes on rather unusual timbre colors. The sound resulting from the signal processing is heard through two not too powerful but self-powered speakers, sometimes exploited also at the very edge of their transducing capabilities, analog harmonic distortion. They are placed beneath the piano. Therefore, the terminals of the electroacoustic chain, the piezo transducers and the speakers, are rather close among them, the body of the piano acting as an interface between the input and the output terminals. On va donc écouter un petit extrait. Thank you. relation de l'art au monde, socio-économique, social, écologique, et autres, et puis la question des moyens. Voilà les deux mondes de la croissance et la décroissance.
Absolument.
ça existe. Et le problème, c'est que quand vous êtes artiste, vous voulez aller un peu plus loin. Vous voulez aller un peu plus loin. Et c'est là où l'art est devenu autonome. C'est-à-dire, vous commencez par la chanson, mais vous voulez un peu complexifier la technique, les paroles, l'instrument. C'est-à-dire que l'art fonctionnel lié à la réalité quotidienne, où tout le monde est artiste, on l'a connu par le passé. Mais les artistes ont voulu aller plus loin, c'est ça le problème. D'où l'autonomie de l'art, qui est apparue à une certaine époque. Et ce que je n'ai pas dit parce que c'est évident, c'est l'autonomie elle-même qui ensuite a créé les conditions pour que l'art devienne marchandise. Puisque en séparant le travail de l'œuvre, l'œuvre a fini par devenir une marchandise. Voilà, donc c'est problématique. Mais pour moi, justement, je suis convaincu qu'il existe ces formes d'art, mais il faut faire attention, il ne faut pas qu'on le repense comme le pensent les penseurs de la croissance, comme un retour à l'artisanat. Parce qu'imaginez un monde, le monde de la décroissance de Serge Latouche, tel que je l'envisage, c'est où on vit tous dans des petits villages, là on fait tous un peu de musique, un peu d'art, mais il manque un Beethoven, il manque un Xenakis, il manque un Kelch, il manque un... Voilà, on voit tout de la musique, c'est très bien, on chantera. Comme on continue à le faire dans les villages, on chante, on fait de la musique à table, c'est formidable, mais l'art voilà, est quand même relativement limité.
Si.
C'est très pessimiste ce que je dis.
Non. Non,
c'est clair. Ma position est claire.
Qui est traduction. Ella ha mostrat la... Ella ha mostrat la paradoxa, em sembla, si no de nosaltres, la paradoxa del fet que pensa que això que plantejava la Clara, no, de la gent que es lluita per fer música també, no, i que no podem catalogar d'una banda o de l'altra, doncs seria un procés amb el qual arribaria en teoria amb el decreixement, no, però que això ja s'està fent ara, no, com ella puntualitzava. Però llavors la paradoxa està en aquesta tensió que em sembla que el Maquis volia mostrar entre el fet que quan un d'alguna manera es diu artista sempre demana més, vol anar una mica més enllà i que la qüestió de que tots som artistes, que d'altra banda ja ve del passat, no? de Bois i d'altres artistes que havien plantejat aquesta qüestió, sempre es veu una mica amb aquesta tirantor del fet que hi ha aquesta ambigüitat entre aquest tots som artistes i hi ha una pràctica de l'art que passa per una altra concepció i d'altra banda l'artista que s'autoproclama també a la vegada i que vol una mica més que això i que és justament aquest voler més moltes vegades el que fa incloure l'obra d'art dintre d'aquest món de l'art i no de l'obra d'art al món, no? Plantejava Roberto, sembla que en síntesi és això. I ràpidament, molt ràpidament, l'última pregunta, el Roberto Barganti li ha demanat.
C'est toujours très difficile de parler avec Maquis parce qu'il est tellement convaincant qu'il arrive toujours à avoir. Enfin, non, c'est pas un cas. Mais j'ai plusieurs questions. Mais la question de l'IRCAM, est-ce qu'il y a un artiste qui n'aimerait pas aujourd'hui travailler à l'IRCAM? La question, c'est est-ce qu'on met l'appui, est-ce qu'on met l'accent sur le fait d'avoir des moyens? Ou est-ce qu'on met l'accent sur le fait d'écouter? S'il n'y a pas équilibre entre les deux choses, c'est-à-dire les processus de composition, c'est un processus aussi dans lequel d'abord on écoute le monde. D'abord, c'est ce qui fait que à l'IRCAM, il y a des compositeurs qui font des magnifiques œuvres, mais après ils sortent dans la rue, ils n'écoutent plus rien. Et donc, je vais arriver, c'est un peu. Mais on n'a pas le temps de discuter tout ça. Et puis, deuxième chose, c'est que. La question des artisans, Latouche, je ne vois pas, je pense qu'il a pas un peu caractérisé, c'est pas un artisan qui va revenir à la poubelle à terre, à la pioche, etc. Évidemment, c'est la question de restituer une production localisée. À avec les moyens d'aujourd'hui, évidemment. Mais évidemment, le modèle qui émerge, c'est le modèle de l'artisan et du paysan. Mais ce n'est pas un temps au sens Moyen-Âge.
En italien, très bien.
No, dicevo che per quanto riguarda la tecnologia, Machis ha fatto l'esempio dell'IRCAM. La questione è se noi ci posizioniamo sulla questione dell'opera o dei mezzi per realizzare l'opera o anche dal punto di vista dell'ascolto. Per esempio, ci sono molti compositori molto bravi che però escono fuori dalla sala del concerto e non ascoltano più il mondo intorno, quindi sono indifferenti all'inquinamento sonoro, alle difficoltà. Questo è un aspetto. La seconda cosa era rispetto a Serge Latouche, che secondo me Machis ha un po' accentuato questo aspetto così un po' retrogrado. In realtà Latouche, quando parla del ritorno all'artigianato, che lavora la terra, non ne parla in termini di medioevo, ne parla in termini di una relocalizzazione, di ritornare a un luogo e non invece delle economie planetarie. Voi sapete che un pomodoro per arrivare nella nostra piatto fa 5.000 km, che è un pomodoro che magari è coltivato a 100 km da casa nostra.
Je ne répondrai pas à la deuxième question parce que c'est très complexe. La question de la localisation, là il faudrait vraiment discuter. Juste pour la première question, l'écoute du monde, oui, mais c'est vrai que les musiciens sont sourds très souvent. Sourds au monde, mais c'est pour créer. C'est pour créer et proposer aussi un autre monde. C'est toute la question là.
Sí, no, y le contesto a la segunda porque es muy complicada, no tenía tiempo. La primera, digo que justamente el que fa el músic quan surt al món és per crear un altre món, per escoltar, no crear un altre món, una altra possibilitat de món. Alors, merci a vos.